Romains chapitre 6, versets 3 à 11. Romains chapitre 6, versets 3 à 11. Au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachant bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi considérerez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Rien qu'avec ce passage du verset 3 à 11, nous pourrions passer des heures et des heures d'enseignement biblique, car ces quelques versets contiennent les grandes thématiques catéchétiques de la foi chrétienne, telles que le baptême, bien sûr, le sens du baptême, la forme du baptême aussi. On parle aussi du pardon, la conversion, la repentance, la base d'une éthique chrétienne, etc. Vous voyez en quelques versets, toutes les grandes thématiques de la foi chrétienne sont résumées dans ces quelques versets. Mais vu la contrainte de temps que nous avons, et nous sommes ici dans un culte et non dans une étude biblique, donc nous serions forcément orientés vers qu'une seule problématique qu'il faudrait résoudre. Une prédication n'est pas un lieu d'étalage de connaissances bibliques ou théologiques. Une prédication, c'est un moment où l'assemblée vient pour prendre sa ration de nourriture spirituelle pour toute une semaine, à l'image un peu des enfants d'Israël qui chaque matin se leva pour aller récupérer sa manne quotidienne dans le désert. Et c'est ce que nous faisons tous les dimanches, nous venons ramasser ce que Dieu nous donne comme pain hebdomadaire. L'épître de Paul aux Romains est assez réputé d'être difficile, puisque la majorité partie de la théologie de Paul est concentrée sur cet épître. Alors, pour que vous n'ayez pas trop mal à la tête, parce que ça fait une semaine que vous avez travaillé, je vais simplifier notre analyse pour aujourd'hui. Paul nous parle du baptême du Christ ainsi que le nôtre. Alors, je vais vous poser une question encore plus simple. Rappelez-vous le jour de votre baptême, même si vous étiez bébé, hein, vos parents peut-être ont raconté l'histoire. Quel est, ou quand vous assistez à un baptême, quel est le moment le plus intense lors du baptême pour vous? C'est l'eau qui coule sur la tête? Je ne pense pas. N'est-ce pas le moment où vous avez dit « Oui, acceptes-tu de te faire baptiser ?» Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, on dit oui ou non. Les parents aussi peuvent dire oui ou non à la place de leurs enfants. Quand le pasteur ou l'officiant nous a posé la question, acceptes-tu de te faire baptiser et devenir enfant adoptif du Père Céleste? C'est le moment où on a dit oui devant Dieu et devant son assemblée céleste. Il en est de même aussi. Lors du baptême de Jésus, il a dit oui, j'accepte, Père, ce baptême que tu me donnes. Quand il se présentait devant Jean-Baptiste pour se faire plonger dans l'eau du Jourdain, il a fait une acceptation du sacerdoce. J'accepte la croix que tu me donnes, Seigneur, Père. Il a accepté le sacerdoce que son Père lui a donné, qui consiste à mourir pour ôter le péché du monde. Et donc, en lisant le texte, Paul fait un lien entre le baptême de Jésus et le nôtre. En d'autres termes, le oui de Jésus est lié à jamais avec notre oui. Le oui que Jésus avait dit devant Jean-Baptiste est lié au jour où tu as dit oui, le jour de ton baptême. Cependant, ce qu'il faut souligner, c'est que notre oui, mon oui, est posé ou fondé sur son oui à lui. Sinon, le oui, mon oui n'a aucune valeur. Seul le oui de Dieu qui tient la route. Notre oui n'a aucune valeur si elle n'est pas greffée sur le oui de Jésus. Et je dis bien greffée, pas juste placée au-dessus. Le verset 4 dans notre texte parle, dans une autre version il parle, « Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort. » Associés. Dans une autre version il dit, par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. Et ce « avec lui » là, cette partie « avec lui » que le pasteur prononce lors de notre jour du baptême, il dit ceci, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Est-ce que vous savez le sens de ce « au nom du » Au nom. C'est « je te baptise vers le Père, je vais te greffer vers le Père, vers le Fils, vers le Saint-Esprit. » Ce n'est pas « au nom » comme le bourgmestre ou l'échevin qui va vous marier dit « au nom de la loi ». Ça, c'est juste une autorité qui parle. Mais ici, « je te baptise au nom », c'est-à-dire que je vais te transférer. C'est un mot aussi qu'on connaît aujourd'hui en informatique. Transférer, envoyer, greffer dans le royaume de Dieu. C'est très important. Juste ce bout-là, on l'oublie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans le terme grec, il dit « en Christo », je vais te mettre en Christ, ancré. Et c'est pour cela que le baptême est appelé le moment de greffe. Tu as été greffé à Jésus. Alors, qu'est-ce que cela implique pour toi et moi dans notre vie de tous les jours? D'un côté, ce que Paul nous dit nous rassure, bien sûr, parce que finalement, le oui que nous avions prononcé devant Dieu et son Église n'est qu'un oui secondaire. Souvent, on a toujours mis le projecteur sur mon oui. Oui, mais c'est moi qui ai dit oui à Dieu. N'est-ce pas, c'est ce que les gens ont dit? Oui, mais vous savez, le baptême que j'ai reçu tout bébé ne tient pas la route parce que je n'ai pas dit oui. Ce sont mes parents qui m'ont dit, mais je vous le dis, ton oui ne compte pas. C'est le oui de Jésus qui prime. Tu peux dire oui 10 fois, mais ça n'a aucune valeur. Je suis désolé. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Heureusement que mon oui ne compte pas. Sinon, je ne serais plus ici aujourd'hui. Donc, le sens où ce oui qui n'a aucune force, mon oui qui est faible, mon oui qui est fragile, qui change toujours en non, à tout moment. Mais sa raison d'être, son existence ne tient pas à moi, mais à celui qui est fidèle à moi jusqu'au bout. C'est ça qui compte. J'ai beau crier, oui Seigneur, je suis ton enfant, mais si mon Seigneur ne me reconnaît pas, quelle valeur à donner à ce oui? N'est-ce pas ce que Jésus avait dit à la fin des temps? Et on aura des gens qui vont dire, oui, mais on avait prêché en ton nom, on avait fait des évangélisations en ton nom, je ne te connais pas. Et c'est ça qui est grave, n'est-ce pas? Ce oui de Dieu qui est le plus important. Et dans l'épître à Timothée, il y a cette belle phrase que j'aime tellement dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Si nous manquons de foi, lui, il demeure digne de foi, car il ne peut se renier lui-même. Vous entendez cette belle promesse? Si nous manquons de foi, c'est-à-dire si tu n'as même pas la foi. Or, on a toujours entendu parler, il faut que tu aies la foi pour que. Mais là, même si tu n'as pas la foi, lui, il demeure digne. Car il ne peut pas se renier lui-même. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Quand j'étais encore au culte des enfants, il y avait un moniteur qui nous a fait une belle illustration. Il a pris une tige d'allumette. Il l'a cassé, il dit, vous voyez, c'est fragile. Et ensuite, il a sorti une deuxième tige et il l'a mise au-dessus d'un clou. Il dit, essayez de couper la tige d'allumette si vous pouvez le casser. Mais effectivement, on ne peut pas le casser parce qu'il y a le clou en bas qui le tient. Vous voyez, la tige, elle reste faible, elle reste fragile. Mais puisque la tige est maintenant est collée au clou, même si tu t'appuies dessus, ça ne va jamais te casser. Vous voyez? C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas mon oui, c'est ce clou qui est fort. Même les portes de l'enfer, dit Jésus, ne pourra jamais le déstabiliser. Jamais. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, Paul aussi attire notre attention que nous ne sommes qu'une branche de l'extérieur qu'on a mis sur le Christ. Rappelle-toi que tu n'es qu'une branche de l'extérieur qui a été greffée à Christ. Et voilà ce qu'il dit dans Romains chapitre 11, verset 17 et verset 22. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, il parle ici des Juifs, et si toi qui es un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place parce que les Juifs n'ont pas cru en Jésus, si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures dans cette bonté, autrement toi aussi tu seras retranché. Cela nous rend humbles. Cela nous remet à notre vraie place. Nous ne sommes rien du tout. Et que si nous nous disons que nous avons la foi, nous avons une soi-disant sainteté, c'est parce que nous l'épuisons en Christ. Grâce à ce baptême que j'ai reçu, et non parce que nous sommes des personnes bien de nature, tu restes toujours un pauvre pécheur. Et cela que dit l'apôtre, le réformateur Luther, nous sommes à la fois justes et pécheurs. Les deux, pas à moitié. Tu es à 100% juste aux yeux de Dieu parce que tu es greffé à Jésus-Christ. Mais tu restes toujours un pauvre pécheur parce que de nature, tu as hérité le péché de tes parents. Alors, si nous suivons bien le raisonnement de Paul, il dit que même si nous avons été greffés à Christ, il est possible que l'une de ces branches ne produira jamais les fruits attendus, malheureusement. Et ça, il n'y a pas de règle mathématique. C'est ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des gens qui sont greffés quand même, mais parfois la greffe ne marche pas. Parfois, ça ne donne pas des fruits, malgré tous les efforts qui ont été donnés. Vous voyez ça dans tout ce qu'on vous faisait dans vos jardins. Vous avez beau à tout faire, mais quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc il y a une sorte de regret, une déception à entendre dans cette phrase, et même le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 5, versets 3 à 4, « Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits pions? C'est dur comme phrase. Mais même Dieu, il ne comprend pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon peuple? Alors, qu'allons-nous tirer comme conclusion après avoir entendu tout cela? Il y a deux aspects complètement opposés dans la vie chrétienne qu'il va falloir revoir. Le premier aspect extrême, c'est l'attitude de ceux qui véhiculent qu'on n'a plus besoin de confesser ses péchés. Il y a cette tendance-là, certaines églises qui prêchent, tu n'as plus besoin de confesser tes péchés parce qu'une fois que tu es né de nouveau, disent-ils, l'homme ancien a été déjà crucifié avec le Christ. Et comme conséquence, nous ne sommes plus esclaves du péché, c'est-à-dire plus sous l'emprise du péché. Et donc ces gens-là, ils ne voient pas l'utilité de se confesser. Et ça, c'est un courant qui existe dans le protestantisme, qui prône cet aspect-là. Et c'est un autre extrême qu'il faut faire attention. C'est une non-compréhension de la justification par la foi. De l'autre côté aussi, à l'antipode, un autre danger. De ceux que nous venons de dire tout à l'heure, ce sont ceux qui se sentent perpétuellement horrifiés, des gens toujours anxieux dans l'idée de ne pas être véritablement pardonné. Ça aussi, c'est une maladie. Il y a des gens, même si tu lui dis que tes péchés sont pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ils ne croiront jamais à leur pardon. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu doutent encore du pardon parce qu'ils sont braqués sur leur état, sur ce qu'ils ont fait. Et c'est une maladie spirituelle que je qualifie de plus dangereuse que la première. Parce que ce n'est pas le fait de reconnaître ses péchés qui nous sauve, mais c'est d'accepter le pardon. La reconnaissance de nos péchés ne nous ouvre pas la porte du royaume de Dieu. Elle ne fait que nous rendre conscients que nous ne pourrons jamais être sauvés par nos propres efforts, ni par nos propres performances spirituelles. La loi de Dieu est comme une lumière qui montre ton état, qui te dit « Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Tu as besoin d'être pardonné. » C'est tout. Et ensuite, c'est là que tu dois recevoir le pardon. C'est le pardon qui te nettoie tout. Et c'est ce qui s'est arrivé au jeune Luther quand il avait été encore moine chez les Augustiniens. Il avait adopté les disciplines les plus rigoureuses pour espérer faire épanouir le spirituel en lui au détriment du corporel, quitte à se faire se autoflageller. Il l'a fait. Il a jeûné, se mettre dans un cachot pour que Dieu soit content de ce qu'il fait. Mais plus il l'a fait, plus il était triste. Et un jour, son maître Stopitz le voyait toujours avec un visage triste. Pourtant, il faisait partie des meilleurs dans sa promotion, si on peut le dire comme ça. Et son maître, qui ne savait pas, mais il était sous l'inspiration du Saint-Esprit, voici ce qu'avait dit son maître Stopitz. « Si tu passes ton temps à te morfondre à ce que toi tu as fait, pour Dieu, tu ne seras jamais heureux. Mais si tu contemples ce que Dieu a fait pour toi, c'est là le secret de ton bonheur. » Et c'est ça le problème, chers amis. Souvent, nous sommes braqués sur ce que nous avons fait pour Dieu. Alors là, le constat est flagrant. Nous serons toujours déçus de nous-mêmes parce que il n'y a pas photo. Mais si tu regardes le Christ qui te dit « Mon enfant, tu es pardonné », alors là, il y a un espoir. Donc cette phrase est d'une importance capitale pour la foi chrétienne. Si nous nous regardons nous-mêmes, nous serions toujours déçus. Mais observe le Christ à la croix et ce qu'il a fait pour toi. Observe ce qu'il a fait pour toi et nous aurons une assurance ferme de notre salut. Amen.